Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la vie quotidienne des invisibles, au cœur du trafic de drogue au Mexique. Ils sont épiciers, cultivateurs, petits fonctionnaires de l'administration locale et ils vivent à Badiraguato, dans le Sinaloa, une région escarpée du nord du Mexique à plus de 1000 km de la capitale Mexico. Les barons qui tiennent le trafic d'héroïne à partir du pavot ont été popularisés notamment par des séries sur Netflix, Narcos. Mais derrière cette guerre qui a fait plus de morts que le conflit en Irak, eh bien, il y a des milliers de personnes déplacées. Et ceux qui restent à condition de respecter la loi du silence, de prendre d'immenses précautions pour circuler ou encore d'accepter d'être une marchandise quand on est une femme. Au-delà de ces existences que certains jugent barbares, une anthropologue a restitué minutieusement la part d'humanité de ces personnes assujetties à un commerce mondial, loin d'un jeu vidéo ou d'une série de faux héros. Bonjour Adèle Blasquez.
Bonjour.
Vous publiez « L'aube s'est levée sur un mort ». Violence armée et culture du pavot au Mexique, c'est publié chez CNRS. Et vous êtes anthropologue à l'École des hautes études en sciences sociales. Et pour vous, le terrain, ça a été 18 mois dans les villages d'une région qui compte ses morts chaque jour et à laquelle les journalistes accèdent généralement plutôt au sein d'un convoi militaire de l'armée. Autant dire que vous êtes vous-même un objet de questionnement pour nous, les auditeurs. Comment, même en parlant couramment l'espagnol, on parvient à se fondre dans cette Sicile mexicaine où tout le monde se connaît et où parfois tout le monde se soupçonne. On va en discuter. Nous serons aussi en ligne avec notre correspondante à Mexico pour RFI, Gwendolina Duval. Elle nous dira si le changement politique avec le président Obrador a amené la paix dans le pays au Mexique ou pas du tout depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Et puis en fin d'émission, de l'autre côté de l'Atlantique en Europe, rencontre avec le journaliste espagnol Nacho Carretero. Son livre « Farinha » qui veut dire farine, hein, donc la cocaïne, raconte le trafic de drogue en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Adèle Blasquez, le titre de votre livre est étrange. L'aube s'est levée sur un mort.
Oui, alors j'ai choisi ce titre justement comme c'est une traduction d'une phrase très très courante à Badiraguato qui est Amaneció muerto, qui est la formule à travers laquelle les habitants généralement le matin, quand il y a eu un mort dans la nuit, s'annoncent les uns aux autres, encore une fois l'apparition d'un mort à l'aube. Alors la formule en espagnol est assez étrange parce que on a une absence d'action et d'acteur. Donc quand l'aube s'est levée, un mort était là, à l'aube.
Oui, comme s'il était tombé du ciel, le
voilà.
Mort. Hein, comme si personne ne l'avait tué.
Voilà, exactement. Et c'est très révélateur parce que c'est un village, comme vous le rappeliez en introduction, dans lequel on a besoin de parler de la violence qui continue à affecter de manière presque quotidienne le village, mais dans lequel il est très difficile en fait, d'imputer la responsabilité, parce qu'encore une fois, comme vous le disiez, tout le monde se connaît. Il y a une proximité très forte entre tueurs, tués et voisins qui commentent, et donc quelque part on suspend l'attribution d'un acte ou d'une responsabilité en disant simplement ça, l'aube s'est levée sur un mort.
C'est une guerre qui en 15 ans a fait plus de 300 000 morts, plus de 100 000 disparus, mais qui n'est pas reconnue à l'international, ce que vous expliquez bien, et ça on ne l'avait pas vraiment réalisé. Il n'y a pas de reconnaissance du statut de réfugié pour les personnes qui fuient les combats, il n'y a pas de protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les déplacés internes. C'est une guerre qui cohabite avec un pays aux apparences de démocratie, même si les journalistes y sont tués comme nulle part ailleurs dans le monde.
Oui, alors c'est effectivement un des pays les plus dangereux pour exercer le journalisme, et c'est quelque chose dont on a du mal à se rendre compte. On a du mal à prendre la mesure, je trouve, depuis la France, de cette situation en fait au Mexique, où c'est donc plus meurtrier que l'Afghanistan, plus meurtrier que l'Irak. Il y a uniquement le conflit syrien aujourd'hui qui surpasse en termes de morts la situation au Mexique. Et néanmoins, quand on prend l'avion et qu'on va au Mexique, l'avion est rempli de groupes de touristes qui vont. C'est un pays qui continue à attirer beaucoup, oui, pour son tourisme. pour ces attraits qui sont réels et qui effectivement fonctionnent de manière démocratique avec des élections qui donnent lieu à une alternance. Vous allez en parler tout à l'heure avec l'arrivée d'AMLO. Et c'est extrêmement contradictoire et c'est un petit peu dans cette visée-là que j'ai voulu faire ce livre.
Ouais. AMLO, c'est le diminutif du président mexicain.
Oui, Andrés Manuel López Obrador.
Tout est étrange dans votre livre, parce que vous racontez évidemment les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas dans les enquêtes sur le trafic de drogue. Badir Iguato dans le Sinaloa, le Sinaloa qui d'ailleurs a donné son nom à un des plus gros cartels de la drogue au Mexique. C'est un endroit que les habitants qualifient souvent de tranquille. Mais pourquoi ? Il y a du déni, il y a de la honte, il y a de la peur pour parler d'un endroit tranquille ?
Alors, c'est une question qu'on retrouve beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé dans des endroits très affectés par la violence, ont retrouvé cette nécessité souvent de la part des gens qui sont affectés de manière quotidienne et de manière très profonde par la violence, de qualifier de manière complètement contradictoire leur vie. Et donc à Badir Iguato, effectivement, je n'ai jamais autant entendu la phrase « c'est tranquille ici » que à Badir Iguato.
C'est presque schizophrène comme attitude.
Alors, effectivement, il y a un côté de dissonance totale entre les pratiques et le quotidien et la manière dont c'est qualifié. Et ensuite, il faut quand même se rendre compte aussi de la difficulté quand on se rend compte de la permanence et de l'importance de la menace sur le quotidien, le fait que les familles sont prises dans ces dynamiques-là. Aussi, il y a une difficulté à admettre, et c'est aussi une forme de protection en fait, de se dire et de dire aux autres que tout est tranquille, de dire que nous on n'est pas affectés, c'est aussi une manière de dire qu'on est en dehors de ce trafic. Et autre chose importante à cet égard-là, c'est la réputation de Badir Iguato. C'est une commune qui apparaît beaucoup au niveau national dans les reportages, vous parliez des séries Netflix, par sa réputation qu'on appelle la légende noire, c'est comme ça que les élus locaux souvent, ou les intellectuels locaux en parlent, et le « ici c'est tranquille », il est aussi une réponse à cette réputation.
Pour quelles raisons finalement on tue ou on est tué ? Certes, il y a les règlements de compte entre cartels, il y a la violence entre la répression armée et les cartels, mais aussi plein d'autres choses, puisque cette violence, en fait, elle a gangréné toute la société.
Il y a une présence très forte de la violence qui effectivement dépasse la question des règlements de compte entre les bandes. Je me suis questionnée sur comment les habitants qui y sont confrontés le plus quotidiennement le qualifient. Et on se rend compte qu'il y a une série de meurtres qui sont considérés comme normales, prévisibles. Et c'est des meurtres qui, le fait qu'on ne questionne pas leur caractère problématique ou non, ils rentrent quand même de manière plus large dans des questions de rapports de domination qui peuvent être extérieures à la question de la culture du pavot et de l'organisation du trafic, qui peuvent toucher les femmes, par exemple, de cette manière-là, mais qui s'inscrivent dans les mêmes rapports, en fait.
Ça peut être des disputes lors de jeux de cartes, une soirée éméchée qui tourne mal. Tuer, être assassiné, on peut l'apprendre par un coup de téléphone. Comme vous le racontez dans votre livre, on peut être prévenu de l'assassinat de son voisin, qu'il ne faut surtout pas aller sur les lieux du crime. Et là, vous écrivez « La circulation d'une nouvelle mort induit plusieurs précautions urgentes ».
Absolument. Alors, quand on apprend que quelqu'un a été tué, en premier lieu, le lieu dans lequel c'est déroulé doit être absolument évité. Parce qu'on ne sait pas s'il s'agit simplement d'une personne qui a été tuée on dit levantada, donc enlevée, ou s'il s'agit du début de quelque chose. Donc la première précaution, c'est d'éviter à tout prix de regarder, de s'approcher du lieu. Et ensuite, il y a différentes précautions. On ne peut pas, de cette même manière-là, se présenter aux veillées funèbres. C'est pour ça qu'on dit qu'on tue pour rien, pour une dispute, mais on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai, que c'est pas une spontanéité de l'usage de la violence, c'est souvent derrière des formes de régulation violente de l'accès à des moyens de subsistance.
Mais pourquoi aller à des obsèques, à une veillée funèbre ? C'est quand même important. Ça peut être aussi un problème et un danger pour les gens, pour les habitants.
Mais alors parce que, et c'est effectivement un gros problème, j'ai par exemple une des personnes très importantes dans le livre qui s'appelle Théophilo, qui lui revient souvent sur la tristesse que ça a représenté pour lui, le fait que sa famille n'ait pas assisté à la veillée funèbre de son gendre, tout en disant oui d'accord, il était un petit peu un petit bandit sur les côtés, mais quand même ça m'a blessé.
Lui-même est un ancien trafiquant, hein. Il a passé plusieurs années dans les prisons californiennes, hein, d'ailleurs.
Oui, voilà, qui revient à Badillaguato une fois qu'il perd la nationalité aux États-Unis après avoir été enfermé effectivement dans plusieurs prisons fédérales aux États-Unis. Et donc c'est un vrai problème, ce deuil, mais on ne peut pas y assister par peur que la veillée funèbre soit justement prise pour cible. Parce que si jamais on est dans un règlement de compte plus large, quoi de mieux, quelque part, que d'aller à l'endroit où tout le monde se sera réuni autour de la personne qui vient de se faire tuer pour, d'une seule fois, en fait, tirer sur l'assistance, et ça s'est déjà vu. Donc c'est un vrai problème qu'on retrouve dans le phénomène plus large au Mexique des disparus, un deuil impossible. Vous parliez des 300 000 morts et 100 000 disparus. Bon, dans ces disparus-là, on se doute qu'un grand nombre d'entre eux sont morts. On parle du Mexique comme d'une immense fosse commune. Et c'est des disparitions, des morts sur lesquelles on ne peut pas faire de deuil.
Vous décrivez, Adèle Blasquez, une vraie culture du silence. Il y a une expression qu'on traduit en français, je ne sais plus comment c'est en espagnol, mais la tortue peut vivre 100 ans si...
Elle ne met pas son nez dans les affaires des autres. Oui.
Alors en espagnol, ça donne...
Ça donne, sabes, porque la tortuga vive 100 años, porque no se mete en asuntos ajenos. Ça donne comme ça.
Mais avec quels mots on décrit les situations? Ça veut dire que les mots trafic de drogue, trafiquant ne sont jamais prononcés? Il y a des choses qu'on ne peut pas énoncer?
Alors, par exemple, vous parliez du cartel de Sinaloa, dont Badillaguato est quand même censé être
la capitale.
Voilà, c'est l'ensemble de ses chefs, donc El Chapo Guzman, Rafael Caro Quintero, tous les personnages de la série Netflix Narcos México sont de Badillaguato. Donc, a priori, quand de l'extérieur, Badillaguato égale cartel. À Badillaguato, on n'entendra jamais le mot cartel. Ça fait partie des termes qui ne sont pas forcément une question, dans ce cas-là, de peur d'énoncer les choses, mais qui sont aussi le fait que c'est une image qui ne rend pas compte, en fait, de la manière dont on se meut dans cet environnement.
Mais alors, comment, dans une telle culture du silence, vous, Adèle Blasquez, jeune Française, vous avez pu travailler, publier 300 pages sur le sujet et vivre si longtemps en immersion dans cette violence entre 2013 et 2015? Vous avez été soupçonnée, à un moment donné d'ailleurs, d'enquêter sur le trafic de drogue. De quels appuis avez-vous bénéficié? Comment êtes-vous parvenue à, je dirais pas à devenir vous aussi invisible, mais tout de même?
Effectivement, j'ai réussi à m'installer dans le village, je pense pour plusieurs raisons. D'abord en termes d'appui, parce que j'ai bénéficié du soutien et des collaborations avec des chercheurs locaux installés dans la capitale de l'État, Culiacán, avec qui j'ai pu échanger, qui ont pu me guider quand je venais juste d'arriver sur la commune qui correspondait le mieux à l'étude que je voulais mener.
Notamment une chercheuse, une universitaire qui a sa famille dans le coin et qui aide sa famille financièrement aussi.
Voilà, absolument, qui a sa famille dans le chef-lieu, qui elle-même a grandi à Badillaguato, mais qui est parvenue à sortir, donc vraiment parvenue, parce que c'est une commune qui est extrêmement marginalisée, dans laquelle il y a très très peu, je pense que c'est important de le rappeler, très très peu de sources de revenus. C'est pas un hasard si la plupart des personnes dans la montagne vivent de la culture de pavot, c'est le résultat de la disparition des autres moyens de subsistance. Et donc cette chercheuse qui est parvenue par les études à devenir chercheuse dans la capitale aide sa famille à Badillaguato et quand on se rencontre me dit que je peux me rendre à Badillaguato avec un de ses neveux qui me fait une première visite du village. Ensuite, pour m'installer, bien, je pense que j'ai bénéficié de cette saturation de la visite des journalistes qui dépeignent toujours de la même manière ce village, parce que très rapidement, les personnes que j'ai rencontrées ont pu se rendre compte que mon objectif n'était pas de répéter l'énième reportage qui reproduit les mêmes poncifs.
Oui, mais quand même, quand vous vous présentez comme anthropologue, et qui comprend vraiment le but de votre travail? Déjà, le métier d'anthropologue, ce n'est pas très connu quand même.
Oui, alors effectivement... D'ailleurs, au Mexique, il y a une confusion entre anthropologue et archéologue. Enfin, parce que souvent, ce sont deux disciplines qui sont menées main dans la main.
C'est vrai qu'à un moment, on croit que vous faites des fouilles souterraines.
Oui. Voilà, donc il y a certaines personnes qui, pour m'aider, ont essayé de répandre la rumeur. Enfin, certaines personnes, en particulier ce même Teofilo, dont on parlait tout à l'heure, qui a essayé de répandre la rumeur que je savais lire les pierres, donc lire les pétroglyphes, j'imagine. Effectivement, il y avait une ambiguïté sur quelle était ma présence, mais le plus important aussi, mon objectif, c'était justement de ne pas travailler sur le narcotrafic dont on n'arrêtait pas de parler, sur les relations entre l'État et le narcotrafic qui est vraiment l'objet favori sur lequel on revient tout le temps. Et
mais
qui...
plutôt les interstices.
Voilà, et moi c'était un petit peu tout ce qui disparaissait en fait sous cette image, et ce qui disparaissait en particulier, eh bien, c'est tous les habitants, tous les gens qui vivent leur vie en fait, dans un village comme un autre.
Sauf qu'à plusieurs reprises, des habitants vous recommandent de ne jamais poser la question « Que faites-vous dans la vie ?» C'est quand même pas évident d'enquêter si on peut pas poser cette question.
Absolument, c'est pas la...
Et de ne jamais montrer d'intérêt quand on vous raconte des événements.
Oui, alors ça c'est très particulier, ça a été un apprentissage. Alors effectivement, je ne pouvais pas demander « Que faites-vous dans la vie ?» parce que justement... Justement, dans ce village, beaucoup de personnes vivent d'activités illégales. Donc, certaines personnes allaient pouvoir me le révéler quand elles le voulaient, de la manière dont elles voulaient, quand je partageais leur quotidien. Mais comme question d'entrée, qui est quand même effectivement un peu basique quand on fait une enquête, c'était pas possible. Et effectivement, j'ai dû apprendre, en fait, c'est une sorte d'enquête sans question, ce qui est un peu particulier, mais j'ai dû apprendre en observant comment les gens échangeaient les nouvelles, justement, d'encore une fois, quelqu'un est mort. On ne demande jamais qui l'a tué, mais où est-ce qu'il a été tué, qu'est-ce qu'il faisait quand il a été tué. Et puis, il y a des sortes de suggestions qui arrivent petit à petit sur, bon, ben, peut-être qu'il trempait dans quelque chose, des choses comme ça. Et je me rendais compte que les gens avec qui j'échangeais, au début, en ne disant rien pour ma part, échangeaient sur des informations extrêmement importantes, mais toujours avec l'air de ne pas s'y intéresser. Petit à petit, j'ai compris que c'était une des stratégies de protection pour s'informer, mais ne pas aller à l'encontre de ce proverbe de la tortue qui vit 100 ans parce qu'elle ne met pas son nez dans les affaires des autres.
Et pour survivre, donc. Alors, que font ? Parce que des dizaines de milliers de personnes ont quitté cette région depuis plusieurs années, au moins depuis 2006, pour échapper à la mort. Que font ceux qui restent pour survivre ?
Quand on vit dans le chef-lieu, on a quelques possibilités d'avoir des activités qui ne sont pas illégales. Et en particulier, je pense que le secteur le plus important, c'est l'administration municipale. Donc c'est de travailler comme balayeur, comme belador, donc gardien dans l'administration municipale. Mais l'ensemble de la montagne, qui représente en fait la majorité écrasante de la population de la commune, quand je fais mon enquête entre 2013 et 2015, c'est essentiellement la culture de pavot.
Et vous dites que c'est la dernière option si on ne veut pas être directement impliqué dans le conflit, ce qui est quand même un comble de paradoxe, parce qu'on la produit, la drogue.
Voilà, alors on se rend compte, en fait, en se rendant dans des régions comme ça, que produire du pavot, c'est avant tout être paysan, agriculteur, et c'est ne pas participer aux activités directement impliquées dans le trafic. C'est ne pas transporter la drogue, c'est ne pas être un homme armé au service d'un trafiquant, c'est ne pas protéger des convois, c'est être paysan, en fait, mais d'une plante qui est illégale et qui est réprimée de manière très très lourde par l'armée. Ouais, réprimée selon les cas.
Qui participe donc à la fabrication de l'héroïne. Comment ça marche ? On part le matin au champ, tranquillement, avec ses outils ? Pas tout à fait.
Alors, pas tout à fait, parce que justement, on part dans les champs une fois qu'on voit que la voie est libre. Alors, la voie est libre, on dit « est-ce limpio ?» C'est « est-ce qu'il y a des soldats sur le chemin ?» Donc, les habitants, les cultivateurs de pavots en particulier, passent un temps immense à attendre et à observer les allées-venues des soldats. Par les allées-venues de l'hélicoptère qui repère les parcelles, les allées-venues des colonnes de soldats à terre, et ils s'échangent des informations par radio. Des radios qui sont, elles aussi, illégales, mais qui, il faut comprendre qu'il n'y a aucun autre moyen de communication, il n'y a pas de réseau téléphonique dans toute cette montagne. Donc les radios, elles sont utilisées pour se prémunir de l'activité des soldats, pour savoir quand est-ce qu'on peut aller sur la parcelle, quand est-ce que les soldats sont en train de faire un mouvement vers là où on se trouve, mais aussi pour toute la vie quotidienne. Si quelqu'un crève un pneu sur le chemin, ce qui arrive souvent puisqu'il ce n'est pas goudronné, c'est les radios qui permettent de communiquer, de demander de l'aide.
Les fleurs de pavot ont besoin de très peu d'eau, donc si on ne peut pas se rendre sur sa parcelle, parce que chacun a plusieurs petites parcelles qui sont disséminées, qui ne communiquent pas, la culture du pavot n'en souffre pas forcément trop.
Non, c'est une des raisons en fait de la présence du pavot dans ces montagnes, c'est que ce sont des terres qui sont très très peu fertiles sur, comme vous le disiez, un territoire qui est très très escarpé.
La récolte se fait une fois par an, et ensuite, où est transformé le pavot ? Comment est-il exporté ? Qu'est-ce qui se passe à la sortie du champ ?
Alors, à la sortie du champ, pour les personnes avec lesquelles moi j'ai travaillé, justement, à la sortie du champ, il y a la récolte de... Donc, on cisèle le bulbe du pavot, on récupère la gomme qui, le lendemain, est sortie petit à petit, la fleur transpire d'une gomme que les cultivateurs récupèrent, qu'ils emmagasinent le plus possible, mais très peu par crainte des fouilles des soldats. Et donc, les cultivateurs, eux, sont obligés de vendre très rapidement, en fait, leur récolte. Et une fois qu'ils la vendent, ils la vendent, là aussi, contraints par la répression, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, s'ils se rendaient sur la plaine dans la capitale régionale, ils pourraient vendre leur récolte plus cher. Mais se déplacer avec la gomme de pavot, alors même qu'on est dans un territoire qui est sans cesse traversé par les soldats, c'est dangereux. Et la plupart des personnes avec lesquelles moi j'ai travaillé ne veulent pas se risquer. C'est dans ce sens-là qu'il faut bien voir le côté agriculteur. En fait, ils essayent à tout prix d'échapper à la partie illégale. Donc, ils vendent au trafiquant local, qui lui la transforme.
Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les cultivateurs qui ont du mal à se déplacer dans cette région. Hein. Vous-même, quand vous arrivez en bus, vous n'êtes pas tout à fait tranquille. Circuler dans la Sierra, vous le dites, c'est d'abord espérer que tout soit dégagé. Mais comment se déplacent les habitants? Comment font-ils pour prendre le moins de risques possible, y compris pour un épicier?
Mais alors, c'est le fait de pouvoir se déplacer, en fait, c'est une dimension centrale de cet endroit-là. C'est que c'est justement là que résident beaucoup de possibilités d'accumulation de pouvoir. Il y a des personnes qui peuvent se déplacer pour différentes raisons. D'abord parce que, par exemple, leur père vient de tel endroit et donc ils connaissent tous les gens qui vivent parce qu'ils y ont grandi, mais ensuite leur mère de tel autre. Et donc, ils arrivent à avoir un grand territoire sur lequel ils peuvent se déplacer, tandis que d'autres personnes n'ont pas ces ressources-là. Donc, un premier point, c'est on peut se déplacer si on connaît les gens de là où on va. Et l'autre question, c'est on peut se déplacer quand on bénéficie d'accords avec les militaires, ce qui est le cas des trafiquants, mais pas des petits producteurs.
Ouais. Ça ressemble quand même, ce Badigawato, finalement, à une prison à ciel ouvert, hein, où toute la vie quotidienne est littéralement enchaînée à des restrictions reliées au trafic de drogue.
Oui, alors c'est paradoxal parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à une commune rurale, comme on les connaît tous à beaucoup d'endroits. Mais oui, y compris quand on regarde les statistiques, c'est une commune dont 20% de la population est partie.
Adèle Blasquez, vous nous décrivez ce quotidien dans le nord-ouest du Mexique, dans cette région du Sinaloa, à Badigawato. Les femmes n'ont pas la meilleure des conditions dans ce monde de violence extrême. Comment s'en sortent-elles pour, malgré tout, survivre, tenter d'échapper aux violences sexuelles? Vous-même, vous avez été souvent menacée d'agression lors de vos entretiens. Comment on travaille dans ces conditions?
Alors oui, effectivement, la condition des femmes est particulièrement vulnérable dans cette situation-là. Alors, dans mon cas, j'ai pu remarquer effectivement le type de rapport un petit peu prédateur que pouvaient avoir des hommes vis-à-vis de moi, mais j'étais très très clairement protégée à cet égard-là par ma nationalité, par le fait que je suis étrangère, alors que les femmes qui grandissent dans la commune sont, elles, exposées pour de vrai, j'ai envie de dire. Et donc, les options à leur portée, elles sont assez réduites. Comme je l'explique à un moment donné dans un chapitre entier tourné autour de l'histoire d'une de mes voisines qui s'est faite enlever, violée par un homme qui considérait que derrière cela, il fallait qu'elle aille vivre avec lui. Et en fait, en décortiquant un petit peu cette histoire, on se rend compte à quel point la protection d'un homme, le fait d'appartenir à un homme, est un petit peu la seule option de protection. Et c'est une protection qui, elle-même, est très fragile parce qu'en plus, les hommes meurent beaucoup.
Quel état de droit dans un pays comme ça? Qu'est-ce qui peut subsister de l'état de droit? On va en discuter. Et bien sûr, on va donner aussi la parole à notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval. Vous restez avec nous, Adèle Blasquez. L'aube s'est levée sur un mort, violence armée et culture du pavot au Mexique. On est bien dans le nord-ouest du Mexique. On en discute juste après Gerardo Ortiz, Palma Salazar.
Palma Salazar fue el consentido del güero, alegre de más, siempre lo veía sonriendo su modón y fumando Marlboro rojo, siempre vivió a su antojo y sus hijas fueron sus ojos, nos puede mucho que no está. El seguridad fue su más fiel elemento, el 12 y el 3. Firme el colo bien atento, volaban, los cielos con el papo andaban, a Sonora llegaban, a
ahí con el chalán contaba la oro y el quintal de extrañar. Pantalón Levi's, tipo polo azul acoste, botas Timberland, gorri barba tenía porte de jefe, y en los medios la clave 20, el 23 pendiente, era bribón y inteligente, y a mucha gente fue a ayudar. Y de aquí hasta que se acaben las llantitas, ¡ay no más! Hombre de amistad, muy amigo de Don Mayo, del Chapo Guzmán y del viejo Chalarajo, la Norian, al arroyo en pipas y trocas, doble rodado roja, su favorita entre otras cosas, los españoles pa' bailar. Bueno al pilotear, se movía por Mocorito, allá en Culiacán, en Guamuchi y en los chinos, La Palma, en su 38 plasmada, su cuernito cargaba, la del 70 no faltaba, era una riata pa' tirar. Luis era de acción, en el aire transportaban, adquirió un avión, solo un modelo en la patria regaló, como aprecio agüero mi hermano, el soplete mentadón, me fui sin volver a mirarlo, del cielo lo sé de cuidar.
La chanson s'appelle Palma Salazar, donc à la gloire d'un des narcotrafiquants mexicains, puisque nous sommes dans ce nord-ouest du Mexique avec vous, Adèle Blasquez. Vous publiez une étude anthropologique qui s'appelle L'aube s'est levée sur un mort, violence armée et culture du pavot au Mexique. Palma Salazar qui est toujours incarcéré, me semble-t-il. Oui. C'est incroyable la fascination quand même pour ce commerce illicite, pour les barons de la drogue. Est-ce que c'est dû uniquement à l'argent facile qu'il génère ? Il y a autre chose, à votre avis ?
Je ne sais pas, dans cette fascination, j'ai l'impression...
Il y a plein de chansons hein, sur ces barons de la drogue.
Ça, alors, au niveau local, la production des corridos, ça s'appelle les narco-corridos à la gloire de certains barons. Oui, c'est le fait de raconter des épopées personnelles, des trajectoires fantastiques qui montent et aussi qui finissent toujours de manière tragique, ce qui est un trait plus large de la chanson des corridos mexicains. Et de l'extérieur, je pense qu'il y a une fascination de cette prise de risque aussi. Il y a plusieurs raisons de...
On a l'impression que vous en parlez comme des croisades. C'est incroyable. Nous accueillons notre correspondante à Mexico pour RFI. Bonjour Gwendolina Duval.
Bonjour.
Badira Guato vit au quotidien avec la violence liée au trafic de drogue et aux organisations criminelles qui le contrôlent. On l'explique depuis le début de l'émission avec notre invitée Adèle Blasquez. Alors, plus de 16 ans après l'explosion des cartels, le trafic de drogue et la violence sont loin d'avoir disparu. Qu'en est-il aujourd'hui de cette guerre, puisque l'enquête d'Adèle Blasquez porte sur les années 2013-2015? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Gwendolina Duval?
Eh bien, en fait, cette guerre, elle n'existe pas, selon le gouvernement. En tout cas, il n'y a plus de guerre officielle contre le narcotrafic. Le message, il a été clair dès l'arrivée au pouvoir du président Andrés Manuel López Obrador avec son slogan « Abrazos, no balazos », traduisez des embrassades, pas de balles. En fait, la stratégie choisie est celle de la pacification plutôt que de l'usage de la force, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de faire la chasse aux chefs de cartel, mais de maintenir la paix dans le pays en sollicitant notamment les pouvoirs locaux. Pour marquer le début de cette nouvelle ère, le gouvernement a créé un nouvel organe de police hybride, la Garde nationale. Elle est composée à la fois d'agents civils, de la police fédérale et de militaires. C'est elle qui est chargée de lutter contre le crime organisé.
Concrètement, Gwendolina Duval, qu'est-ce qui est fait par le gouvernement mexicain aujourd'hui pour remédier à la violence dans le pays et faire respecter un minimum l'état de droit ?
Bien, le gouvernement veut mettre l'accent sur le développement de programmes sociaux, notamment à destination des jeunes, outre les campagnes de sensibilisation liées aux risques liés à la drogue. Il y a un plan pour lutter contre le manque de ressources et d'emplois chez les jeunes, avec l'objectif final d'éviter qu'ils soient recrutés par les groupes criminels. L'idée du gouvernement mexicain, c'est d'attaquer le problème à la source en réduisant la pauvreté, qui est elle-même responsable de l'insécurité. Par exemple, dans les zones rurales, rurales les plus démunies, avec un programme de développement économique pour les agriculteurs. Certains peuvent toucher une aide mensuelle et selon le gouvernement, eh bien, c'est la meilleure alternative à la culture des drogues.
Est-ce que la stratégie de l'État mexicain a eu un impact jusqu'ici ?
Eh bien, le problème, c'est que l'efficacité de ces mesures ne s'est pas encore vraiment démontrée. Et puis, en attendant, les groupes criminels ont le champ libre pour agir et se développer. En tout cas, dans les faits, le niveau de violence reste extrêmement élevé dans le pays. Et on voit même une augmentation dans certaines zones, comme par exemple dans les États de Zacatecas ou le Michoacán, en fait, qui sont des lieux de tension où les groupes rivaux s'affrontent. En fait, les vagues de crimes se déplacent sur le territoire au rythme des prises et des pertes d'influence de tel ou tel cartel. Et puis, il y a toujours ce problème lié à la corruption qui s'est infiltré dans la sphère publique à tous les niveaux, que ce soit de la politique ou de l'administration. Il perdure. Et pour résoudre cela, le chantier il est immense. Il faudrait au gouvernement mexicain réformer ses institutions en profondeur.
Merci Gwendolina Duval. Je rappelle que le président Obrador a été élu en 2018 et qu'il est au pouvoir jusqu'en 2024 sur cette promesse de pacifier le pays, mais que l'opposition, les experts et les défenseurs des droits de l'homme dénoncent une militarisation du pays et qu'on a 100 000 morts depuis 3 ans. Donc Adèle Blasquez, pour vous, le bilan, là aussi, il est plus que décevant?
Oui, il est plus que décevant. Il est d'autant plus frustrant qu'on a effectivement eu ce discours de changement de politique vis-à-vis du narcotrafic, avec, comme le rappelait votre correspondante, une stratégie en dehors de la militarisation qui s'est déroulée en fait par un accroissement de la militarisation. Le président Obrador a donné à l'armée et continue à donner donc les ports, les aéroports, la campagne de vaccination du anti-Covid a été menée entièrement par l'armée. Donc on a petit à petit, à l'inverse, une armée qui prend de plus en plus de prérogatives. Et de l'autre, ces programmes sociaux qui en fait se retrouvent un petit peu en grosse continuité avec les programmes préalables, ou par exemple à Badiraguato, le programme Sembrando Vida qu'évoquait votre correspondante est arrivé avec des avocatiers. Et donc la promesse de sortir la commune du narcotrafic par le biais des avocatiers, ce qui était d'autant plus nécessaire que le prix du pavot avait chuté. Mmh. Or, les avocatiers, les familles avec lesquelles j'ai travaillé de producteurs, étaient un petit peu énervés en disant, mais si on nous avait demandé à nous et si des avocatiers pouvaient pousser dans cette terre qui est très sèche, qui est très peu fertile, on le saurait. Évidemment, les avocatiers meurent et demandent beaucoup plus d'eau, ce qui crée des nouvelles tensions autour de l'eau. Donc, il y a une inadéquation.
Et puis, ce n'est pas une agriculture de subsistance, de toute façon. C'est encore une logique de matières premières exportées à bas prix pour ces cultivateurs. Mais il y a quand même des agronomes bien formés au Mexique. Tout le monde le savait que ça n'allait pas pousser les avocats. Alors, on a l'impression que tout est fait pour que personne ne s'en sorte.
Mais en tout cas, on se demande où sont ces agronomes-là. On aimerait bien qu'ils soient dans la mise en place de ces programmes.
Toutes les guerres, quand même, ont une fin. Est-ce que celle des cartels de la drogue, avec ces populations qui sont littéralement retenues en otage, peuvent se terminer un jour ? Ou la collusion des pouvoirs publics est telle avec les cartels de la drogue que plus rien ne peut être démêlé ?
En tout cas, on n'en voit pas la fin. C'est peut-être encore un des traits, j'espère pas, mais qui différencie cette guerre, qui n'est pas une guerre. Mais on retrouve aujourd'hui dans le discours du président nouvellement élu, la même rhétorique sur laquelle, ah non, cette fois-ci, ce n'est pas de la violence, ce sont juste des bandes qui s'entretuent, une sorte de normalisation de cette violence qui se déroulerait à côté du grand projet de transformation qu'il porte.
Ces personnes que vous décrivez comme pauvres, enclavées, dont le destin finalement est très vite scellé, ou alors il faut s'échapper, fuir la violence, fuir les menaces de mort. Mais pour ceux qui restent, est-ce que ces personnes sont elles aussi victimes de la drogue en tant que consommation de produits dangereux pour la santé ?
Alors pendant mon enquête, c'était pas une dynamique très présente, mais je sais qu'au niveau national, il y a une augmentation très très forte de la consommation de drogue, peut-être encore plus marquée dans les espaces urbains que ruraux, mais oui, effectivement, la population mexicaine est en outre de plus en plus affectée par les addictions.
Vous citez un comité sur la santé, parce que vous avez beaucoup aussi observé comment travaillaient les personnels administratifs locaux qui parlent de consommation d'alcool, de tabac, de marijuana, de cocaïne, de crack, associés à des comportements violents à l'intérieur de la famille, délictueux à l'intérieur de la société. Les addictions, écrivez-vous, seraient responsables des principaux problèmes sociaux de la commune. Vous semblez ne pas y croire, que ce n'est pas ça le problème.
Non, Alors, à Badiela Guato, quand on a l'armée qui réprime les moyens de subsistance de la population, effectivement, on a tendance à penser que peut-être que l'addiction n'a rien à voir là-dedans.
Et finalement, comment sont les relations entre ces habitants pauvres et les pouvoirs publics locaux sur place, où il y a tout de même des ébauches de politique sociale, il y a parfois aussi une tentative d'état de droit, est-ce que parfois on peut porter plainte, notamment pour les femmes violées, assassinées, est-ce qu'il y a des crimes qui ne restent pas impunis ou tout ça n'existe plus ?
Alors, les possibilités de recours au système judiciaire sont très très rares et de toute façon, on est dans une situation dans le Sinaloa, à Badiela Guato et plus largement dans le pays, avec un taux d'impunité de la violence qui s'approche des 90%. C'est très impressionnant. Je pense que c'est une des premières choses à réformer. Mais bon. Donc non, l'État, en tant qu'une instance à laquelle on pourrait avoir recours pour être protégé, n'est pas présent à Badiela Guato. En revanche, on a effectivement un État au niveau local, extrêmement routinier, avec des programmes qui se déroulent un petit peu en dehors des aspects les plus sensibles de la vie des habitants. Donc, des personnes peuvent être confrontées au fait que leurs terres sont accaparées, que leur fille est enlevée et puis violée, que leur récolte ou qu'ils sont l'objet de menaces de violence. Mais à côté de ça, l'administration municipale va proposer un programme d'accès aux fauteuils roulants, aux cannes, une aide pour les femmes enceintes. Donc, on a un petit peu deux dimensions complètement différentes qui arrivent à coexister toutes les deux. La violence que subissent les habitants d'un côté et cet État qui se reproduit lui-même et qui continue à exercer au-delà, indépendamment de la violence.
Votre livre, est-ce que... les barons de la drogue connaissaient votre présence, bien évidemment, dans le Sinaloa.
Oui, je pense, oui.
Votre livre, il est arrivé jusque là-bas.
Il est en train d'être traduit en espagnol pour être publié au Mexique. Donc, lors de ma prochaine visite, je suis retournée à Badiela Guato depuis que j'ai terminé la thèse d'anthropologie qui est à l'origine de ce livre. Et la prochaine fois, j'espère y arriver avec le livre, effectivement.
Et comment... votre livre, vos travaux, votre présence a été tolérée finalement pendant 18 mois sur place.
Oui, et je continue à y retourner. Je compte continuer à travailler avec les personnes avec lesquelles j'ai lié quand même des liens d'amitié aussi.
Ça veut dire que quand vous avez écrit ce livre, vous avez aussi pensé à votre sécurité lorsque vous retournez sur place ?
Surtout à la sécurité des personnes qui apparaissent dans le livre. Donc, j'ai mis en place plusieurs mécanismes d'anonymisation pour éviter qu'ils soient...
Mécanismes de ?
D'anonymisation, ouais. Éviter de mettre les personnes en danger par ce qu'elles ont pu me raconter ou me montrer de leur vie. Et je redoublerai cette vigilance-là pour la publication au Mexique, effectivement.
Ça veut dire que la réalité est pire que ce que vous décrivez dans votre livre ?
Alors, je pense pas, je pense avoir vraiment, ça a été tout un travail pendant l'écriture de ne pas tomber dans ce qui, au départ, pendant que j'ai fait l'enquête, était le cas. J'ai un petit peu été imprégnée par ces discours qui disaient que tout était tranquille. Mmh. Et j'avais moi aussi besoin de dire, ah non, c'est pas comme on dit, vous savez, Badiela Guato. Donc, pendant le travail d'écriture, j'ai essayé, je pense, de montrer la fragilité de la vie des personnes avec lesquelles j'ai travaillé.
Merci à vous, Adèle Blasquez. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Votre livre s'appelle « L'aube s'est levée sur un mort, violence armée et culture du pavot au Mexique ». Et c'est publié au CNRS Éditions. Vous êtes anthropologue à l'École des hautes études en sciences sociales. Dans quelques instants, on va entendre de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, le journaliste espagnol Nacho Carretero. Son livre « Farinha ». Farine, donc cocaïne, raconte le trafic de cocaïne en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Charlie Dupio l'a rencontré. On l'écoute juste après Rodrigo Amarante.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Mojar, que temo ahogar, te amo.
C'est la bande originale de la série Narcos diffusée sur Netflix. Nacho Carretero est un journaliste espagnol pour le quotidien El País. Il a enquêté sur le trafic de drogue en Galice, une région du nord-ouest de l'Espagne. Il en a tiré un livre, Farinha, farine en galicien. C'est l'un des noms donnés à la cocaïne. Ce livre, publié en 2015 en Espagne, fait grand bruit dans le pays, interdit de publication pendant plusieurs mois d'ailleurs. Il est maintenant traduit en français aux éditions du Cherche Midi. Notre reporter Charlie Dupio a rencontré Nacho Carretero.
Ma réalité, celle dans laquelle j'ai grandi, c'est celle des narcotrafiquants. Je les voyais aux infos, à la télévision, et c'était très facile de se procurer de la cocaïne. Extrêmement facile. On voyait autour de soi de la cocaïne comme si c'était quelque chose de normal. Je me rappelle par exemple, dans la ville de Villa Garcia, qui est vraiment au centre de la zone du trafic en Galice, je suis allé en boîte un soir, et en entrant dans les toilettes, j'ai vu des gens qui se faisaient des lignes de cocaïne. Et ça, c'était normal. On m'a dit, c'est là, si tu veux, tu peux essayer. J'avais 18 ou 19 ans, donc je me disais que c'était normal, alors que bien sûr, ça ne l'était pas. Je parle de la fin des années 90, quand j'étais jeune. Je me rappelle aussi d'un jour où, en lisant le journal, j'ai découvert que sur la plage où j'avais été la veille avec mes amis, on venait de trouver 200 tonnes de cocaïne, sur la même plage. Alors, il faut réussir à imaginer que dans un petit endroit comme celui-ci, une petite région comme la Galice, c'est là où travaillent les plus gros narcotrafiquants d'Europe. Quand ça se passe chez toi dans ta région, tu ressens un sentiment très fort. Tu te dis que ça arrive ici et que personne ne sait ce qui se passe. Alors, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire. En Galice, nous avons une longue côte qui donne sur l'Atlantique. Une côte très compliquée, très dangereuse aussi. Et c'est la raison pour laquelle les trafiquants, les seigneurs de la drogue, y sont très efficaces. Ils sont bons dans ce qu'ils font parce qu'ils connaissent très bien la mer. Ils ont travaillé toute leur vie sur la mer en tant que marins, pêcheurs et même en tant que contrebandiers. Vous savez, au début, ces narcotrafiquants étaient des contrebandiers. Ils faisaient venir du tabac, du gaz et d'autres produits dans la région. Ils étaient très puissants. Ils avaient des connexions avec des institutions politiques et avec la police. Parce qu'après la guerre civile espagnole, dans les années 30, la Galice est devenue une région pauvre. Cette activité de contrebande était vue comme une bonne chose par les habitants de la Galice. Les contrebandiers étaient vus comme des types qui nous aidaient à avoir en Galice ce que nous n'arrivions pas à obtenir. Et au début des années 80, ces contrebandiers se sont lancés dans la drogue, dans la cocaïne. Quand ils sont devenus trafiquants, cette image de bons gars, de gens bien, est restée au sein de la population de la région. Et ils se sont servis de cette image. Ils ont travaillé pendant 10 ans, voire plus, sans avoir aucun problème, sans qu'il n'y ait aucune réaction de l'État ou des autorités.
Et justement, donc vous le dites, les contrebandiers d'hier sont devenus les narcotrafiquants d'aujourd'hui, de cocaïne. Mais comment la cocaïne est arrivée jusqu'à eux? Comment ils se sont liés avec les narcotrafiquants colombiens?
C'est arrivé par le blanchiment d'argent. Les contrebandiers galiciens allaient au Panama pour blanchir leur argent. Et au Panama, il y avait aussi les parrains des cartels colombiens qui venaient blanchir leur argent. Donc ces deux mondes se sont rencontrés là-bas. Et les Colombiens ont dit « on cherche un nouveau marché ». À partir de ce moment, a commencé une collaboration qui existe toujours en Galice.
Vous dites que dans les années 90, donc la Galice est devenue la porte d'entrée de la cocaïne en Europe et que 80% donc de la coke, qu'on peut aussi appeler farinha, poudre, coco, arrivant sur le vieux continent, va entrer par les côtes galiciennes.
Oui, les années 90, c'était le record, parce que dans la perception des habitants de la Galice, les activités des narcotrafiquants étaient terminées. En fait, en 1990, a eu lieu une opération appelée Opération Nécora contre les narcotrafiquants. C'était la première grande opération espagnole contre ce réseau. Les narcotrafiquants ont appris qu'il fallait désormais qu'ils soient invisibles, sous les radars. Il fallait faire profil bas. Si les premiers narcotrafiquants vivaient dans de grandes maisons avec de très belles voitures et qu'ils mangeaient dans de beaux restaurants, les nouveaux, à partir des années 90, se sont faits discrets. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les narcotrafiquants les plus puissants en Galice sont inconnus, ils restent anonymes.
L'avalanche de cocaïne est sans fin. C'est comme ça que débutait une chronique du quotidien espagnol El País, pour lequel vous travaillez en juillet 2003. Et vous le dites, il y a eu d'énormes déchargements, d'énormes quantités de cocaïne pendant ces années-là. Par exemple, en 2002, plus de 17 000 kilos de cocaïne ont été interceptés dans la région.
Oui, c'est fou, ça montre ce que représentait alors la Galice. C'était vraiment la porte d'entrée principale, le monopole d'entrée de la cocaïne en Europe. Et elle reste l'une des portes d'entrée très importantes aujourd'hui. De la Galice jusqu'au reste de l'Europe, jusqu'à la France, l'Irlande, l'Angleterre, la Russie, la Pologne. C'est ça le circuit de la cocaïne. Depuis l'Amérique latine jusqu'à toute l'Europe et même jusqu'aux pays voisins.
Comment vous avez travaillé pour cette enquête? Est-ce que vous avez pu contacter des narcotrafiquants, des policiers?
J'ai choisi les personnages qui, pour moi, ont joué un rôle important dans l'histoire des narcotrafiquants en Galice et j'ai essayé de les contacter. Des voisins, des juges, des policiers, des politiciens et aussi des trafiquants ou des contrebandiers. Certains avaient arrêté et d'autres continuent encore aujourd'hui.
Comment vous avez réussi à les contacter? Est-ce que ça a été difficile?
Oui, ça a été difficile. La plupart ne voulaient pas du tout parler. Mais certains d'entre eux ont leur ego. Ils sont contents qu'on parle d'eux. Par contre, ils ne veulent pas qu'on donne leur nom. J'ai pu parler avec certains narcotrafiquants en passant par la police qui les connaît, en passant parfois par leur avocat ou bien par quelqu'un qui travaille en prison. Cette enquête m'a pris près de 3 ans. Ce n'était pas dangereux, je n'ai reçu aucune menace. Bien sûr, ils sont dangereux, ce sont des trafiquants de drogue. Mais ils ne sont pas comme d'autres mafias, d'autres groupes qu'on peut trouver ailleurs. Ils ne s'attaqueraient pas à la police ni à un journaliste. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je suis en sécurité.
Farinha, c'est le titre de l'ouvrage de Nacho Carretero, ce journaliste espagnol. Adèle Blasquez, vous qui avez publié « L'aube s'est levée sur un mort, violence armée et culture du pavot au Mexique ». Vous décrivez d'ailleurs les flux du pavot qui va vers la Colombie, puis la Californie, Los Angeles, en passant par la Malaisie, l'Europe. Vous voyez des similitudes ou des grosses différences, notamment sur la genèse de cette culture? Parce qu'avant, au Mexique, tout comme en Espagne, il y avait quoi avant la drogue? Il y avait de la contrebande? C'était quoi l'histoire?
Les similitudes les plus fortes avec ce que raconte sur la Galice, ce serait notamment avec les lieux frontaliers, où effectivement la drogue devient une des marchandises qu'on passe à travers la frontière américaine, dans les mêmes dynamiques que ce qu'il raconte quand les Colombiens qui se voit fermer en fait la route des Caraïbes qui est de plus en plus contrôlée par la DEA, décide de passer par...
La DEA, c'est l'organisation anti-drogue américaine.
Hein. Absolument. L'administration anti-drogue américaine finit par contrôler de mieux en mieux la route des Caraïbes. Les Colombiens passent par leurs homologues mexicains, ce qui est un élément central de la constitution de ces groupes criminels. Mais Un autre élément, à mon avis, intéressant dans le parallèle entre les deux cas, c'est le fait qu'on voit toujours la drogue s'insérer comme une économie dans des endroits dont l'économie est en grand déclin, dans des situations de pauvreté.
Merci à vous, Adèle Blasquez, d'être venue chez 7 milliards de voisins. Il faut absolument vous lire. L'aube s'est levée sur un mort, violence armée et culture du pavot au Mexique, et c'est publié chez CNRS Éditions. Merci.
Merci beaucoup.
Et merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et on se retrouve lundi pour 7 milliards de voisins. Ne manquez pas la rediffusion de notre émission sur le rouge à lèvres. Officiellement, le bâton de rouge est un détail de la frivolité féminine pour respecter les canons de beauté créés par des hommes. Mais l'histoire est plus compliquée. Et sur les réseaux sociaux, on voit même des tutos de maquillage pour porter des revendications politiques. À lundi, les voisines et les voisins.